CFM en Tarn-et-Garonne, le mag.
Bonjour, bonjour et merci d'être avec nous dans ce mag. Aujourd'hui, on vous propose de prendre votre ticket pour Minuit Montmartre, de l'opéra moderne et rétro à la fois.
CFM.
C'est ce samedi à Bressols, ce samedi à partir de 20h, un opéra proposé par Les Débouvetés, dont fait partie Hélène Ducos. Bonjour Hélène.
Bonjour Lisa.
Vous êtes mezzo-soprano et compositrice de retour dans la région, native du Tarn-et-Garonne. Vous êtes partie, je crois, en Angleterre de retour par Paris et là pour donner cette première représentation de Minuit Montmartre. Alors un petit peu avant de parler de votre parcours, vous êtes toute jeune, hein, 30 ans et des brouettes. Avant de parler de votre parcours, donc assez attiré. Typique, parce que l'opéra, on n'entend pas parler tous les jours. Minuit Montmartre, c'est quoi ?
Minuit Montmartre, c'est un opéra en 4 actes. Je rassure tout le monde qui ne dure qu'une heure et demie. Voilà, avant que tout le monde s'imagine que ça va durer 8 heures. Non, ça dure 1 heure et demie. Et ça raconte l'histoire d'un mafieux dans les années 20 à Montmartre. Donc ça ne se passe que... L'histoire ne se déroule que sur une nuit. Mais dans une nuit à Montmartre, il peut se passer beaucoup de choses. Voilà.
Alors, il y a de la prostitution, des gangsters, de la mafia. L'opéra, c'est assez atypique quand même, non ?
Non, je pense qu'on se fait une image de l'opéra. On se fait une image de quelque chose d'un peu empoulé, de quelque chose d'assez distant, des préoccupations quotidiennes aussi, de nous tous. Je crois réellement que l'image est fausse. Je ne sais pas très bien ce qui a contribué à véhiculer cette image, mais je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'opéras déjà existants qui parlent de nos préoccupations quotidiennes, qui parlent de sujets d'actualité, qui parlent de les pressions faites aux femmes, le harcèlement sexuel, les combats intersectionnels, voilà des choses qu'on entend aujourd'hui à la radio, mais qui sont présentes dans le monde de l'opéra. Simplement, je dirais une chose, ils sont surtout ces sujets présents dans le monde de l'opéra anglo-saxon et assez peu dans le monde de l'opéra français et latin.
Alors opéra, piano, théâtre, des claquettes même feront leur apparition dans Minuit Montmartre ce samedi.
Les claquettes, c'est très étrange. J'ai vraiment voulu en mettre d'abord parce que l'époque dans laquelle est située cette histoire, c'est-à-dire les années 1920, s'y prêtait. Et puis parce que c'est un instrument qui, à ma connaissance, peut-être que je me trompe et on me corrigera, mais je ne crois pas, n'avait jamais été utilisé dans un opéra. Et c'est un véritable instrument, les claquettes. C'est un véritable instrument que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, que je pratique depuis plusieurs années. Et je le pratique avec d'autant plus d'enthousiasme que j'ai découvert, mais après avoir commencé à les pratiquer, que mon grand-père, que je n'ai pratiquement pas connu, était un fou de claquettes. Comme si quelque chose s'était transmis de lui à moi sans que je le sache. Voilà, et c'est avec grand plaisir, avec enthousiasme, avec joie qu'on a pratiqué avec toute la troupe des claquettes pour être bien en rythme et pour que ça contribue à cette espèce d'explosion qu'est Minuit Montmartre. Voilà.
Pianiste aussi, Hélène Ducos.
Oui. Pianiste formée ici, dans le Tarn-et-Garonne.
À Montauban.
À Montauban, avec Micheline Pinoncelli, que je salue. Oui, pianiste, ce qui m'a beaucoup aidé après dans la composition. Alors, je pratique moins aujourd'hui pour d'autres raisons, parce que je chante beaucoup plus. Mais indéniablement, j'ai bénéficié d'une très bonne formation qui m'a permis aussi de composer pour le piano. D'ailleurs, c'est l'instrument principal de Minuit Montmartre et c'est vraiment composé pour le piano. C'est pas une réduction d'orchestre. C'est pas quelque chose composé pour d'autres instruments qu'on aurait arrangé après pour piano. C'est réellement un hommage au piano, un hommage au ragtime, qui est vraiment une musique de cette époque. Alors le ragtime, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Scott Joplin, c'est The Entertainer, c'est les débuts du jazz en fait. C'est les débuts du jazz, c'est ces noirs américains qui vont commencer au piano, d'abord aux États-Unis, puis ça va un peu voyager jusqu'en Europe, à mêler les rythmes des musiques africaines à la musique occidentale. Ça va donner d'abord le ragtime et puis après le jazz. Voilà.
Alors ça fait beaucoup de disciplines qui sont mélangées là pour un opéra.
Mais c'est ça l'opéra, c'est le mélange des disciplines. C'est-à-dire dès le début, d'ailleurs ça a été le mélange des disciplines. Dès le début, l'opéra c'est... c'est le mélange de la musique orchestrale.
Parce qu'on visualise quand même un orchestre, effectivement.
Tout à fait.
Un piano et des claquettes.
Tout à fait. Souvent, on visualise un orchestre parce que la très grande majorité des opéras qu'on connaît ont été écrits pour des voix, un chœur et un orchestre, parfois extrêmement conséquent. Là, en l'occurrence, et c'est pas le premier qui a été écrit comme ça, là, en l'occurrence, j'ai vraiment voulu l'imiter au piano. C'est le seul que j'ai écrit comme ça. C'est le seul des opéras que j'ai écrit où j'ai limité au piano et aux claquettes. La partie instrumentale. C'est pas le premier, il y en a eu dans le passé, mais il y avait cette véritable raison qui était de remonter à une époque où le piano était présent partout, où le piano était présent dans les bars, le piano était présent dans les maisons closes, le piano était présent dans les cinémas, puisque c'était des pianistes qui accompagnaient les films en noir et blanc. Voilà, et pour une fois, un pianiste joue quelque chose écrit pour son instrument dans un opéra et pas une réduction où ils doivent jouer le rôle de tout un orchestre alors que c'est pas du tout écrit pour ça. Voilà.
Et puis de l'art lyrique et de la politique.
Un peu, oui. Parce que l'art est politique, on le sait. L'art est politique. Je ne me voyais pas entrer dans l'univers de la création sans dire ce que je pensais. Ça, c'est un grand avantage de passer de chanteuse lyrique qui est au service d'un compositeur, d'une partition, à créatrice. C'est une prise de pouvoir. L'écriture, c'est une prise de pouvoir. Il faut l'assumer.
Et vous en avez largement profité, ne serait-ce que par les sujets abordés. Alors, la prostitution, redonner la place aux femmes en tant que sujet, et non pas comme décor.
Oui. C'est né aussi d'une frustration personnelle et artistique. Moi, j'ai eu à chanter pas mal de rôles, ne serait-ce qu'en Angleterre d'ailleurs. Des rôles au demeurant extrêmement intéressants musicalement, et j'ai eu beaucoup de chance de les chanter. Mais où, comment dire, je m'ennuyais un petit peu, parce que je n'ai pas un tempérament à être passive, je n'ai pas un tempérament victimaire, je ne crois pas. Et je nourrissais vraiment une frustration, une vraie frustration d'interprète. Je ne me reconnaissais pas dans ce que je faisais sur scène. On n'est pas obligé de jouer des choses qui nous ressemblent, mais quand on joue toujours la jeune fille à marier en robe à panier, et qu'on est tout sauf ça, il y a un moment où on se dit « qu'est-ce que je fabrique là ?» Donc, automatiquement, quand on passe à la création, on se dit « non, ça plus jamais, ça je ne vais pas l'écrire. Je veux quelque chose de plus intéressant. »
Alors, on est d'accord que c'est deux travails complètement différents. Vous êtes mezzo-soprano, vous passez compositrice.
Oui.
Waouh! Et claquettiste et pianiste. Je ne sais pas si on dit claquettiste.
Si on le dit. Alors, je ne suis pas du tout claquettiste professionnelle, pas du tout. Et puis, ce sont vraiment des claquettes, on va dire, de niveau débutant qu'il y a sur scène pour que des chanteurs lyriques puissent les chausser sans avoir, disons, de claquettes derrière eux. C'est le travail musical qui est intéressant.
Il faut pouvoir chanter, hein, faut pas être trop essoufflé non plus.
Et il faut pouvoir chanter avant, après. Heureusement, je ne les fais pas chanter pendant, parce que là, je pense qu'ils m'en auraient voulu. Ça aurait été trop difficile. Mais vous avez raison, c'est plusieurs fonctions, c'est plusieurs métiers, en réalité. Il se trouve que moi, j'ai fait du piano parce que j'étais trop jeune à l'époque pour étudier le chant lyrique, qu'on ne peut étudier qu'une fois que la voix est adulte. Donc j'ai fait du piano, un peu bêtement, voilà, on m'a inscrit au conservatoire, j'ai fait du piano. Et maintenant, je dis heureusement que j'ai fait du piano. Parce que, une fois que vous êtes pianiste, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent à vous. Vous comprenez comment fonctionne la musique. Vous pouvez aller vers les études d'harmonie, de contrepoint, qui sont des termes oulala, qui paraissent un peu élitistes. En gros, vers des études d'écriture de la musique. Voilà, de comment ça s'écrit la musique. Et parce que j'avais ce bagage, ça n'a pas été difficile en fait. C'était une source de questionnement, ça a été une charge de travail bien entendu de créer. Mais en revanche, il y avait suffisamment de bagage pour pouvoir passer de chanteuse lyrique à compositrice, justement parce que je n'avais pas été que chanteuse lyrique.
Hélène Ducos, chanteuse et interprète de cet opéra Minuit Montmartre, à voir ce samedi à Bressol. Un petit extrait.
La force, la main de Pluton,
C'est pas souvent qu'on entend de l'opéra dans ce mag sur CFM Radio. On est avec la compagnie Dédé Beauveté, avec Hélène Ducos, chanteuse lyrique et compositrice de cet opéra qui sera à voir ce samedi à la Muse de Bressols. Votre formation, justement, oui. On disait que vous avez commencé le piano, oui, à Montauban.
Oui.
Vous êtes partie en Angleterre, oui, pour poursuivre ses études de chanteuse lyrique, mezzo-soprano. Oui. Donc, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on devient chanteuse d'art lyrique?
Alors, déjà, je crois qu'on le devient par nécessité. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un coup de foudre. Moi, il s'est produit assez petite. On m'a amenée à l'opéra du Capitole. C'était Carmen. Voilà, j'ai vu cette femme sur scène qui a commencé à chanter « L'amour est un oiseau rebelle » et tout le monde s'est tué, tout le monde l'a écouté. Et il y a un coup de foudre. On s'est dit « Bon, ben ça y est, je sais ce que je veux faire. » Et une fois que vous avez ce coup de foudre, il n'y a rien qui va vous stopper pour faire ça, même si c'est extrêmement difficile. C'est un sport de haut niveau, devenir chanteur lyrique. Alors ça commence... Moi, j'ai eu la chance de commencer par des études de piano, donc j'avais le bagage musical, le bagage de solfège. J'avais tout ce bagage-là qui me permettait de lire et d'analyser des partitions. Et une fois que j'ai eu la voix, c'est-à-dire une fois que je suis devenue adulte...
Alors adulte, c'est-à-dire vers 12 ans, quand même.
Ah non, la voix vraiment lyrique, pour commencer à la travailler, c'est plus vers la fin du lycée et la majorité. C'est vraiment plutôt ça.
D'accord.
C'est pour ça que c'est frustrant quand vous savez depuis que vous êtes toute petite que vous voulez faire ça. Vous devez attendre. Vous faites autre chose en attendant.
Oui, avec la possibilité d'être mauvaise, hein, arrive à 18 ans.
Oui, tout à fait, la possibilité d'être mauvaise. Moi, j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je parte parce que j'avais besoin d'une vision peut-être un peu téméraire de la question. C'est-à-dire que quand vous arrivez en Angleterre, dans les conservatoires supérieurs, que vous passez le concours d'entrée. Bien sûr, la voix compte. Mais ce qui compte encore plus, notamment dans les entretiens, c'est votre volonté. Et les jurys en Angleterre préféreront toujours prendre quelqu'un qui a une volonté d'acier, d'y arriver, de faire les choses, plutôt qu'une autre personne qui aura peut-être une meilleure voix, mais qui n'est pas sûre de ce qu'elle va faire.
Alors, les armes, c'est de faire des gammes sur le duo des fleurs. C'est quoi, des cours d'art lyrique?
Des cours d'art lyrique, ça commence par une mise en éveil du corps. C'est-à-dire, la première chose qu'il faut savoir sur l'opéra, le chant lyrique, c'est que c'est un sport. Une des premières choses qu'on apprend, c'est que faut se lever tôt le matin, faut aller faire du sport, souvent de la natation, souvent des choses comme ça. Il faut faire beaucoup d'exercices de respiration, énormément d'exercices de respiration. il faut faire beaucoup d'étirements, voilà, ouvrir la cage thoracique. Et là, peut-être, on est prêt à commencer un cours de chant. Et un cours de chant, ça commence par des vocalises très simples, très douces, parfois qui n'ont rien à voir avec les sons extrêmement puissants qu'on fait à l'opéra, mais qui vont nous permettre de former la voix pour pouvoir produire ces sons après. Et puis évidemment vient le temps des vocalises, voilà, dans tous les sens, dans tous les tons, avec toute une batterie d'exercices pour essayer, non pas de dompter, parce que je pense pas que la voix se dompte, mais d'apprivoiser sa voix, et par là même de s'apprivoiser soi, parce que la voix est l'expression de quelque chose d'extrêmement intime. Elle est l'expression de nos contradictions, elle est parfois l'expression de ce qu'on aimerait oublier, ce qu'on aimerait cacher, mais il y a toujours une raison pour laquelle on a une voix aiguë, on a une voix grave, on a une voix longue, peu de souffle, beaucoup de souffle. Il y a une raison profonde, il faut la trouver, il faut l'accepter. Et voilà, et c'est plusieurs années au conservatoire supérieur à faire des exercices tous les jours, et puis après à monter sur scène avec le conservatoire dans des rôles d'opéra et à apprendre ces rôles très vite, par cœur, à savoir apprendre un rôle en deux jours, ça aussi, on forme la mémoire. C'est un véritable exercice que de savoir comment on mémorise quelque chose rapidement et de manière sûre.
Mmh. Et ça devient mezzo-soprano pour voilà. Vous, Hélène Ducos, qu'on pourra voir, donc on le rappelle, pour cet opéra Minuit Montmartre à la Muse de Bressols. Ce sera ce samedi à 20h, un opéra dans lequel vous chantez, vous faites, oui, des claquettes, du piano. Et donc vous êtes aussi compositrice. Donc là on passe complètement à l'envers du décor. Comment ça se crée un opéra? Comment est-ce qu'on peut monter une compagnie comme les Débouvetés?
Alors il faut une idée, qui était l'idée du collectif d'abord. Il faut savoir qu'en France il n'y a plus les troupes comme il y avait il y a quelques décennies dans les maisons d'opéra. C'est-à-dire si vous allez dans une maison d'opéra, quelle qu'elle soit, vous n'allez pas entendre une troupe. La troupe de la maison d'opéra, vous chantez quelque chose, vous allez entendre des artistes qui ont été castés, c'est-à-dire recrutés, exactement pour cette production-là, qu'on a pris à droite à gauche, parfois à l'international. Voilà. Et ce que j'avais un peu connu en Angleterre, furtivement, parce que voilà, j'en suis revenue, c'est le travail de troupe, c'est-à-dire les mêmes artistes qui travaillent ensemble au long cours. J'avais cette idée un peu plantée en tête de recréer une troupe. Et une fois qu'on a l'idée, il faut la rencontre. Et la rencontre, elle s'est faite. Il se trouve que c'est la soprano Laura Kemp, qui est aussi d'ailleurs à l'affiche de Minuit Montmartre, qui a été cette rencontre. Elle m'a dit quelque chose d'extrêmement simple. Je lui ai fait part de cette idée. Et elle m'a dit cette phrase toute simple. Écoute, si tu y vas, je te suis. Le simple fait d'avoir quelqu'un qui vous dit ça, c'est un déclic. Et comment on recrute des gens? D'abord, on voit les gens qu'on connaît, qui seraient intéressés. Après, on va un peu plus loin dans le réseau en disant, est-ce que tu ne connaîtrais pas quelqu'un qui serait intéressé par le travail de troupe? Et on arrive à trouver en fait des artistes intéressés par le travail de troupe, y compris des artistes de très haut niveau, y compris des artistes qui sont déjà en carrière. Je pense à Johan Leland notamment, qui sont intéressés par ce travail, justement parce que le travail de troupe, ce n'est pas la même chose que le travail dans les grandes maisons d'opéra. C'est un travail, justement, au long cours, c'est un travail, j'allais presque dire familial, quelque part. Et on y trouve ce qu'on ne trouve pas, forcément, dans les grandes maisons d'opéra, à savoir vraiment travailler avec la matière humaine, faire du théâtre, puisque l'opéra, c'est avant tout du théâtre, mise en musique, certes, mais c'est du théâtre. Et ça crée une communauté. Une communauté dont je peux dire que je suis fière. Voilà, je suis extrêmement fière de cette troupe. Parfois, je les appelle la bande d'abrutis. Parce qu'on aime bien, travailler avec beaucoup de sérieux. On aime bien aussi rigoler. Et je crois qu'il faut s'appliquer. S'appliquer vraiment à rigoler à la fois dans le travail et à la fois dans la vie privée. Et je les estime tous et je suis extrêmement fière de ce groupe. Voilà.
Médée pouvait avoir donc à l'occasion de cette représentation de Minuit Montmartre, qui n'est pas le seul opéra qui a été créé. Du coup, là, en l'espace de quelques mois, vous avez cravaché là, Hélène.
Oui, j'ai cravaché. Faut que je fasse attention d'ailleurs parce que je suis quelqu'un qui a tendance à avoir des plages de travail très intenses et après des décompensations. Mais oui, on a cravaché. On a créé un autre opéra qui s'appelle Amanda. Où là, il y a un ensemble orchestral, par contre, qu'on a créé à Paris aussi. Et puis, il y a d'autres choses qui sont dans les tuyaux voilà, qui arrivent. Mais effectivement, on fait pas mal de créations. Et ça aussi, ça détonne dans le paysage lyrique, en tout cas le paysage français. Parce que la création n'a pas forcément été la grande priorité des grandes maisons. Si on va dans la rue et qu'on demande à n'importe qui, citez-moi une pièce de théâtre qui a été écrite ces 50 dernières années. Tout le monde va être capable de vous citer au moins un titre, au moins quelque chose, ne serait-ce que, je ne sais pas, des pièces de Josiane Balasco ou des choses comme ça, ou Le Père Noël est une ordure, tout simplement. Tout le monde, n'importe où en France, va être capable de vous citer une pièce de théâtre. Si on pose la même question pour l'opéra, eh bien, je pense pouvoir affirmer que très peu de personnes vont être capables de citer un titre.
Minuit Montmartre, à voir, à Bressol. Les débouvetés, pardon, vous serez combien sur scène ce samedi?
On sera 10 sur scène, 9 chanteurs et une pianiste. Oui, c'est ça, 9 chanteurs et une pianiste, c'est bon, j'ai tout le monde, voilà.
Les décors, en quelques mots?
Le décor est extrêmement simple, alors je vais vous dire, on fait vraiment... Quand on fait tout nous-mêmes, on fait vraiment tout nous-mêmes, c'est-à-dire les décors, c'est nous aussi. Et on fait vraiment dans le plus sobre possible, parce que ce qui nous intéresse, c'est la matière humaine sur scène, c'est les personnages, leur évolution. Et il est plus intéressant d'avoir une intrigue, un propos compréhensible. Je précise pour ceux qui auraient peur de ne pas comprendre ce qu'on chante. On travaille beaucoup l'addiction. On travaille énormément l'addiction. Il est plus intéressant d'avoir des enjeux et une histoire à suivre, des personnages à suivre dans un décor sobre que l'inverse, qu'avoir un décor qui écrase tout. Donc le décor est extrêmement simple et sobre et je laisserai les spectateurs le découvrir.
Ce samedi à la Muse de Bressol à partir de 20h pour venir découvrir Minuit Montmartre de la compagnie Les Débouvetés. On peut regarder un petit peu tout ce que vous faites sur votre site internet, lesdébouvetés.com. Hélène Ducosse, j'en profite pour vous demander, c'est quoi les Débouvetés?
On me le demande souvent d'où ça vient ce nom un peu bizarre. Alors je peux le dire, la première fois que nous nous sommes tous rencontrés, et c'était pour travailler sur Minuit Montmartre, on était accueillis en résidence, pas loin d'ici d'ailleurs, dans le Tarn-et-Garonne. Et il nous a fallu construire une scène pour travailler en fait. Et on a construit une scène sous un grand auvent, tel qu'on en a dans les anciennes maisons du Tarn-et-Garonne, c'est une sorte de préau. Et on a empilé des palettes. Et par-dessus, on a mis des planches. Vous savez, des planches de bois agglomérées tout à fait basiques. Et le terme technique pour ces planches, pour qu'elles tiennent ensemble, c'est on dit qu'on les bouvette. Voilà, les bricoleurs savent de quoi je parle. Et donc on les a bouvetés pour que ça tienne et que ça nous fasse une scène sur laquelle travailler. Et en réalité, on était tellement énergiques et on travaillait tellement d'arrache-pied que chaque soir, les planches n'étaient plus bouvetées les unes aux autres. Et donc on avait un membre de la troupe, pour ne pas le citer, Corentin Bournon, qui tous les soirs prenait le marteau et allait rebouveter les planches. Et au moment où il a fallu se choisir un nom, voilà, ça s'est imposé à nous. On s'est dit, bah, visiblement, on débouvette carrément les scènes. Donc, on va s'appeler les Débouvetés.
Les Débouvetés seront donc sur la scène de la Muse de Bressol ce samedi à partir de 20h. Lesdébouvetés.com pour aller voir un petit peu tout le panel de ce que vous proposez. De l'art lyrique, de la politique, du Beggars Opéra, du Ragtime, de l'opéra, du piano, du théâtre, des claquettes sur la scène de la Muse de Bressol, on vous y retrouve. Hélène Ducosse, donc mezzo-soprano et compositrice de cet opéra. Hélène Ducosse, merci beaucoup.
Merci, j'en profite pour remercier le maire de Bressol, Jean-Louis Ibre, qui nous a accueillis en répétition et qui nous accueille pour Minuit Montmartre. Voilà, c'est un très beau cadeau qu'il nous fait, donc merci à lui.
Et merci à tous d'avoir été à notre écoute pendant ce magazine, ce mag qui sera rediffusé à 17h et à 21h30, comme d'accoutumé et comme d'habitude, à réécouter en podcast sur le site cfmradio.fr. Les infos ne tardent pas.